Bonjour et bienvenue dans Encore heureux. Je poursuis aujourd'hui la lecture du petit livre délicieux de Philippe Delerme, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Un livre qui a déjà, ma foi, presque 30 ans. J'avais lu quelques-uns de ses textes très courts dans l'émission de juillet, une émission qui est toujours disponible d'ailleurs en podcast sur le site de Radio B si le cœur vous en dit. La première gorgée, c'est un peu de douceur dans ce monde de grosses brutes épaisses, de mégalomanes bêtes et méchants, de narcissisme boursouflé, de nationalisme débile. Un peu de poésie dans ce monde d'hyperconsommation, de piscine, de bassine, de PIB et de prix du gaz. So let's get started. Un couteau dans la poche. Pas un couteau de cuisine, évidemment, ni un couteau de voyou à cran d'arrêt, mais pas non plus un canif. Disons un Opinel numéro 6 ou un Laguiole. Un couteau qui aurait pu être celui d'un hypothétique et parfait grand-père. Un couteau qu'il aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à large côte. Un couteau qu'il aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner, piquant les tranches de saucisson avec la pointe, pelant sa pomme lentement, le poing replié à même la lame. Un couteau qu'il aurait refermé d'un geste ample et cérémonieux, après le café bu dans un verre. Et cela aurait signifié pour chacun qu'il fallait reprendre le travail. Un couteau que l'on aurait trouvé merveilleux si l'on était enfant. Un couteau pour l'arc et les flèches, pour façonner l'épée de bois, la garde sculptée dans l'écorce. Le couteau que vos parents trouvaient trop dangereux quand vous étiez enfant. Mais un couteau pourquoi ? Car l'on n'est plus au temps de ce grand-père et l'on n'est plus enfant. Un couteau virtuel alors ? Et cet alibi dérisoire ? Mais si, ça peut servir à plein de choses, en promenade, en pique-nique, même pour bricoler quand on n'a pas d'outils. Ça ne servira pas, on le sait bien. Le plaisir n'est pas là. Plaisir absolu d'égoïsme. Une belle chose inutile de bois chaud ou bien de nacre lisse, avec le signe cabalistique sur la lame qui fait les vrais initiés, une main couronnée, un parapluie, un rossignol, l'abeille sur le manche. Ah oui, le snobisme est savoureux quand il s'attache à ce symbole de vie simple. C'est le luxe rustique. Un objet dans la poche que l'on sort de temps en temps, jamais pour s'en servir, mais pour le toucher, le regarder. Pour la satisfaction benoîte de l'ouvrir et de le refermer. Dans ce présent gratuit, le passé dort. Quelques secondes, on se sent à la fois le grand-père bucolique à moustache blanche et l'enfant près de l'eau dans l'odeur du sureau. Le temps d'ouvrir et refermer la lame, on n'est plus entre deux âges, mais à la fois deux âges. C'est ça le secret du couteau. Le croissant du trottoir. On s'est réveillé le premier, avec une prudence de guetteur indien, on s'est habillé, faufilé de pièce en pièce, on a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà, on est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose. Un mariage de mauvais goût s'il n'y avait le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre et léger sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Kerouac, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour, quand tous les autres dorment. Presque tous. Là-bas, il faut bien sûr la lumière chaude de la boulangerie. C'est du néon, en fait, mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre. Il faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche. Et l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve au seul premier client, complicité de l'aube. 5 croissants, une baguette moulée, pas trop cuite. Le boulanger en maillot de corps fariné se montre au fond de la boutique et vous salue comme on salue les braves à l'heure du combat. On se retrouve dans la rue. On le sent bien, la marche du retour ne sera pas la même. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude, par ce paquet de croissants tenu de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant, c'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence et le meilleur est déjà pris. Aller au mur. C'est une balade à faire avec de vieux amis à la fin de l'été. C'est presque la rentrée. Dans quelques jours, tout va recommencer. Alors, c'est bon, cette dernière flânerie qui sent déjà septembre. On n'a pas eu besoin de s'inviter, de déjeuner ensemble. Juste un coup de téléphone au début du dimanche après-midi. Vous viendriez cueillir des murs ? Oh, c'est drôle, on allait justement vous le proposer. On s'en revient toujours au même endroit. Le long de la petite route à l'orée du bois. Chaque année, les ronciers deviennent plus touffus, plus impénétrables. Les feuilles ont ce vert mat, profond, les tiges et les épines, cette nuance lie de vin qui semble les couleurs mêmes du papier vergé avec lequel on couvre livres et cahiers. Chacun s'est muni d'une boîte en plastique où les baies ne s'écraseront pas. On commence à cueillir sans trop de frénésie, sans trop de discipline. 2 ou 3 pots de confiture suffiront, aussitôt dégustés au petit déjeuner d'automne. Mais le meilleur plaisir est celui du sorbet. Un sorbet à la mûre, consommé le soir même, une douceur glacée, où dort tout le dernier soleil fourré de fraîcheur sombre. Les mûres sont petites, noires brillants. Mais on préfère goûter en cueillant celles qui gardent encore quelques grains rouges, un goût acidulé. On a vite les mains tachées de noir, on les essuie tant bien que mal sur les herbes blondes. En lisière du bois, les fougères se font rousses et pleuvent en crosses recourbées au-dessus des perles mauves de bruyère. On parle de tout et de rien. Les enfants se font graves, évoquent leur peur ou leur désir d'avoir tel ou tel prof. Car ce sont les enfants qui mènent la rentrée et le sentier des murs a le goût de l'école. La route est toute douce, à peine vallonnée. C'est une route pour causer. Entre 2 averses, la lumière avisée se donne encore chaude. On a cueilli les murs, on a cueilli l'été. Dans le petit virage au noisetier, on glisse vers l'automne.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Invité par surprise. Vraiment, ce n'était pas prévu. On avait encore du travail à faire pour le lendemain. On était juste passé pour un renseignement, et puis voilà. Tu dînes avec nous ? Mais alors simplement, à la fortune du pot. Les quelques secondes où l'on sent que la proposition va venir sont délicieuses. C'est l'idée de prolonger un bon moment, bien sûr, mais celle aussi de bousculer le temps. La journée avait déjà été si prévisible. La soirée s'annonçait si sûre et programmée. Et puis voilà, en 2 secondes, c'est un grand coup de jeûne. On peut changer le cours des choses au débeauté. Bien sûr, on va se laisser faire. Dans ces cas-là, rien de gourmet. On ne va pas vous cantonner dans un fauteuil côté salon pour un apéritif en règle. Non, la conversation va se mitonner dans la cuisine. Tiens, si tu veux m'aider à éplucher les pommes de terre. Un épluche-légumes à la main, on se dit des choses plus profondes et naturelles. On croque un radis en passant. Invité par surprise, on est presque de la famille, presque de la maison. Les déplacements ne sont plus limités, on accède aux recoins, aux placards. Tu la mets où, ta moutarde ? Il y a des parfums d'échalotes et de persil qui semblent venir d'autrefois, d'une convivialité lointaine. Peut-être celle des soirs où l'on faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Les paroles s'espacent. Plus besoin de tous ces mots qui coulent sans arrêt. Le meilleur à présent, ce sont ces plages douces entre les mots. Aucune gêne. On feuillette un bouquin au hasard de la bibliothèque. Une voix dit « Je crois que tout est prêt ». Et on refusera l'apéritif. Bien vrai. Avant de dîner, on s'assoira pour bavarder autour de la table mise, les pieds sur le barreau un peu haut de la chaise paillée. Invité par surprise, on se sent bien, tout libre, tout léger. Le chat noir de la maison levé sur les genoux, on se sent adopté. La vie ne bouge plus, elle s'est laissée inviter par surprise. Apprendre une nouvelle dans la voiture. France Inter, il est 17h, l'heure des informations présentées par un court indicatif musical et puis la nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs. Jacques Brel est mort. À cet endroit, l'autoroute descend rapidement dans une vallée sans charme particulier, quelque part entre la sortie d'Évreux et celle de Mantes. On est passé là 100 fois, sans autre préoccupation que celle de doubler un poids lourd, de commencer à s'inquiéter de la monnaie pour le péage. Tout à coup, le paysage est découpé, arrêté sur image. Ça se passe en une fraction de seconde. On sait que la photo est prise. Cette côte à 3 voies, bien anonyme et grise, qui remonte vers la vallée de la Seine, prend un caractère, une singularité qu'on ne soupçonnait pas. Peut-être même le camion rouge et blanc sur la file de droite restera-t-il dans l'image. C'est comme si on découvrait la réalité d'un lieu qu'on n'avait pas envie de connaître, qu'on associait seulement à un certain ennui, à une légère fatigue, une abstraction morose du trajet. De Jacques Brel, on avait des tas d'images, des souvenirs d'adolescence liés à des chansons, ce déferlement physique de l'ovation quand il chantait Amsterdam à l'Olympia en 64. Mais tout cela va disparaître. Le temps va passer. On entendra d'abord beaucoup de chansons de Brel, beaucoup d'hommages, puis un peu moins, et jusqu'à presque pas. Mais chaque fois, le val d'autoroute au moment de la nouvelle reviendra. C'est absurde ou magique, mais on n'y peut rien. La vie y fait son film, et le pare-brise de la voiture peut devenir un écran. L'autoradio, une caméra. Des bouts de pellicule tournent dans la tête. Mais c'est le voyage qui fait ça aussi, cette fausse familiarité des paysages, l'un par l'autre effacés, qui un jour se cristallise. La mort de Jacques Brel est une autoroute, à 3 voies, avec un gros camion rouge et blanc, sur la file de droite.
But they wouldn't do. nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. Wonderful you. It had to be you. It had to be you. It had to be you. I wandered around. Finally I found the somebody who could make me be true.
Chers auditeurs, merci et à très bientôt sur Radio B.